Bon dimanche, on n'a pas fait de feu aujourd'hui, on n'a pas eu besoin, hein, c'est bon.
Quel... Si on a fait, mais
je vois pas de flamme. Maintenant il y a du feu sans flamme, ça vient de sortir. Ah, tu as fait doucement, c'est... Chut, faut pas le réveiller. Bien, on va revenir sur le logion 107. Dans l'évangile de Thomas, je lis... Jésus a dit, le royaume de Dieu est comparable à un berger qui avait 100 moutons. L'un d'entre eux, le plus gros, disparut. Il laissa les 99. Donc qui ? Le berger, hein ? Pas le mouton. Le berger laissa les 99 et il chercha l'un jusqu'à ce qu'il l'eût trouvé. Après l'épreuve, il dit au mouton, je te veux plus que les 99. Une légère différence avec les évangiles quand même, dans cette histoire de brebis perdues, de... Vous trouvez pas ? Intéressant, intéressant. Jésus parle ici du royaume de Dieu qui est comparable à un berger. Et il nous est dit que ce berger avait 100 brebis, ou moutons, comme vous voulez. Ça dépend, mais il y a plusieurs versions même de l'évangile de Thomas. Il y en a qui disent des brebis, d'autres disent des moutons. Et l'une d'entre elles, la plus grosse, le plus gros mouton, se perd. Eh bien, c'est presque toujours comme ça, mes frères et sœurs. Celui qui se fourvoie, en général, presque toujours, c'est le meilleur. Si vous êtes, par exemple, un papa, une maman, que vous avez 4-5 enfants, ça sera certainement le meilleur, c'est-à-dire le plus fort, qui va vous résister. En fait, le meilleur, il s'affirme. Alors, il peut faire des erreurs en s'affirmant. Il peut se perdre, mais au moins, il fait quelque chose. Les médiocres, eux, ils vont vous céder toujours, voilà. Celui qui n'est pas médiocre, il va se rebeller, il va bouger, il va jouer des coudes, parce que la caractéristique d'un homme fort, c'est terrible à dire, hein, mais c'est la rébellion. Il n'est pas d'accord avec le système établi, il trouve qu'on pourrait améliorer les choses, il trouve que ce n'est pas comme ça qu'il faut faire. Enfin, c'est un empêcheur de tourner en rond. En fait, l'intelligence est rebelle. Plus il y a d'intelligence, plus il y a de rébellion. Ceux qui ne sont pas rebelles, ceux qui disent toujours oui, sont presque morts. Bêlant, quoi. Alors, vous les aimez, il n'y a pas de vie en eux, ça bouge pas, ça suit, quoi. Alors, écoutez bien ça. J'aime pas dire ça. Mais la plupart des chrétiens obéissent, non pas parce qu'ils aiment Jésus, mais parce qu'ils sont faibles. Ils ont peur. Ils ne veulent pas être en opposition, déjà premièrement avec l'Église. Ils n'osent pas, s'ils ont une idée, non, après on va se faire des problèmes si on commence à dire ça, on va m'abeller avec tout le peuple, c'est mieux. Hein? Ils ne veulent pas se trouver en opposition. Ils veulent être avec le plus grand nombre, avec le grand troupeau bêta qui bêle avec les autres. Ils veulent comme tout le monde, pas se faire voir, pas se faire remarquer. Il faut être humble. C'est la faiblesse. Cette sorte d'humblesse-là, c'est la faiblesse. Ne pas se distinguer. Ce sont des faibles. Regardez autour de vous, pas seulement dans le milieu chrétien, mais dans le monde, il n'y a pas besoin d'aller sur la planète Mars, hein, dans le monde. Ceux que vous croyez bons sont presque toujours, je ne dis pas toujours, mais presque toujours ceux qui sont des faibles. Leur bonté, ça ne leur vient pas de leur force. Leur bonté leur vient de leur faiblesse. Ils sont bons parce qu'ils ont peur d'être méchants. Mes frères et sœurs, quelle sorte de bonté est celle qui vient de la faiblesse? Frères et sœurs, la bonté, elle doit venir d'une force, de la force abondante. C'est cette bonté-là qui est sainte. Qui est aimé de Dieu, C'est cette bonté-là qui est la vraie bonté. Parce qu'elle a de la vie. Parce qu'elle inonde tout. Bon, des fois, elle déborde. Des fois, elle fait des bêtises. Des péchés, même, des fois. C'est-à-dire des erreurs. Je disais à un frère, bon, c'est vrai, on fait le baptême pour les morts. Moi, je suis convaincu que c'est vrai. Je suis convaincu, bibliquement, que c'est vrai. Absolument. Mais même si je me trompe, parce que ça se peut, je le fais par amour. Alors, tant pis si je me mets à dos le corps pastoral, tant pis, ça m'est égal. Moi, je suis certain. Vous voyez ? Et comme c'est par amour, mais Dieu ne m'en voudra pas, c'est pas possible. Dieu ne peut pas m'en vouloir de faire quelque chose comme ça, c'est parce que je le fais par amour. Je ne vois aucun texte dans les Écritures qui dit que c'est interdit, que c'est mal. C'est pourquoi, par exemple, quand vous avez un pécheur fort, un gros pécheur qui se convertit, quand il devient un disciple de Jésus-Christ, Dieu lui accorde un poids qui lui est propre, c'est-à-dire le mot poids ou gloire, c'est pareil. Mais lorsqu'un homme ordinaire, un pécheur mou, c'est des pécheurs, moi je dis toujours, mais c'est incroyable. Moi, je ne serais pas chrétien, mais je trouve qu'ils sont minables, ces pécheurs. Ils font des péchés minables. Quand on est sûr qu'il n'y a pas de Dieu, mais on s'en fout de tout. Ben non. Ils sont des pécheurs tièdes. Je trouve ça ahurissant. Bon, quand on est un pécheur mou, un pécheur tiède, eh bien, on devient un disciple à cause de sa faiblesse. Et la sainteté d'une telle personne sera palichonne. Ne soyez pas des saints par faiblesse. Vous échouerez votre vie chrétienne. Vous ne serez pas satisfait. Par contre, si vous êtes un saint fort, qui parfois dit non quand le maître dit va dans ma vigne, ah ça Jésus l'aime beaucoup. Ça Jésus l'aime beaucoup. Un saint comme Jacob qui lutte avec Dieu et qui gagne. Un saint comme Moïse, argumente avec Dieu. Dieu, il aime ça. Un saint qui ose aller dans manger le pain de proposition. C'était interdit, David, un homme fort. Un saint bouillant. Alors ça, Dieu, il aime. Dieu, il aime. Ils sont de les cœurs, ils voient pourquoi, d'où vient cette force. Oh, c'est vrai qu'il y a aussi des faibles qui disent non, comme Jonas. Ce n'est pas cette faiblesse-là dont je vous parle. Je vous parle de la faiblesse, de la force qui vient d'un caractère trempé dans les choses de Dieu. Un homme qui est bon parce qu'il n'ose pas prendre de risques d'être mauvais, eh bien, il n'est pas vraiment bon. Moi, je préfère prendre le risque d'être mauvais, par exemple, d'oser chanter devant vous. Je préfère prendre le risque d'être mauvais. Regardez l'histoire. Vous donnez de l'autorité à un faible, aussitôt il devient mauvais. Vous donnez du pouvoir à un faible, aussitôt le pouvoir va le corrompre. Est-ce que le pouvoir peut corrompre quelqu'un de fort? Jamais. Pourquoi est-ce qu'il serait corrompu? Il a le pouvoir, il n'a pas besoin d'être corrompu. Le faible, oui. Le fort qui a le pouvoir, il va pouvoir se tromper, il va pouvoir faire des erreurs, mais il aura en lui la force de reconnaître qu'il a fait des erreurs, même publiquement, et puis de changer de cap, parce qu'il est fort. Il est déjà fort, le pouvoir ne corrompt que ceux qui sont faibles. Et si votre bonté provient de votre faiblesse, c'est terrible. Alors, d'où vient votre bonté? Par exemple, si vous n'êtes pas un voleur parce que vous avez peur d'être pris. Il y a beaucoup comme ça. Hein? Si vous n'êtes pas un voleur parce que vous avez peur d'être pris, le jour où vous êtes sûr que personne ne vous voit, eh bien, vous allez voler. Parce que le faible, c'est un voleur. Le fort, lui, n'est pas un voleur. Il peut voler, ça peut lui arriver. Mais c'est une action, c'est pas sa nature, c'est pas son état. Le faible, il est voleur. Et s'il vole pas, c'est parce qu'il est faible, parce qu'il a peur. Vous comprenez mieux maintenant pourquoi Dieu dit qu'il n'aime pas les tièdes, mais mieux les froids. Mais les tièdes, il dit, je les vomirai de ma bouche. Chez le faible, la peur, c'est son obstacle. Et en fait, quand Dieu m'a dit l'Europe a beaucoup péché, c'est cette tiédeur qui s'est installée, la peur. La peur des obstacles, l'ultra-protectionnisme. Tu ne tueras pas. Il tuera parce qu'il a peur d'être pris. Bon, c'est des extrêmes un peu, c'est des exemples extrêmes. Mais c'est juste pour vous faire réfléchir. Réfléchissez dans ce sens-là maintenant. Quelle est la source de la bonté, de ma bonté? Quelle est la source de la bonté des gens que je fréquente? Beaucoup ne sont bons que par faiblesse, c'est-à-dire par peur. Peur du gendarme. Vous avez vu depuis Sarkozy comment tout le monde roule doucement? Combien de chrétiens sont chrétiens par peur de l'enfer? Moi, je trouve que j'en veux à ces évangélistes qui prêchent l'enfer. Henri Lindermann.
L'enfer, le diable.
Fait peur aux gens, les gens se convertissent par peur. Et puis après, son église n'arrête pas de dire.
Ouais, c'est des gens tous, des gens affreux, ils sont mauvais, ils sont méchants.
Ils ne sont pas vraiment convertis. Ils ont changé de façon de vivre par peur, parce qu'ils ont dit, oh là là, mais c'est, on va aller en enfer. Mais ils ne sont pas nés de nouveau, ils sont pas nés. On ne vient pas à Jésus par peur, on vient à Jésus par amour. Frères et sœurs, comment la bonté peut-elle naître de la faiblesse? Jésus était bon. Il dit que Dieu est bon. Ils disent, Dieu seul est bon. Et pourtant, Dieu est fort. La bonté divine dont doit faire preuve un disciple réel de Jésus exige une énergie, une force abondante. Mes frères et sœurs, la bonté n'est que divine. Matthieu 19, 17. Et sur la terre, la bonté, c'est un luxe. C'est un luxe. C'est un luxe qui naît de l'abondance. Lorsqu'il y a un trop plein d'énergie, au point où vous êtes immergé dans cette énergie, alors vous vous mettez à partager, vous vous mettez à être bon, vous vous mettez à donner. C'est pourquoi Jésus dit, soyez remplis du Saint-Esprit, une puissance survenant sur vous. Voilà pourquoi on est baptisé dans le Saint-Esprit, pour être des témoins, pour être des dieux, pour se manifester comme Dieu qui est bon, avec la force. Voilà pourquoi quand la grosse brebis s'est perdue, Jésus est allé la chercher pendant que les autres continuaient bien au chaud, tranquillement, à bêler, je pense qu'elle bêlait, hein, dans la bergerie. Soyez remplis du Saint-Esprit, une force, une puissance survenant sur vous, Actes chapitre 1, verset 8. Et vous serez bon jusqu'aux extrémités de la terre. Ah, Michel, c'est pas écrit comme ça. Oui, c'est pas écrit comme ça, c'est vrai. C'est écrit, soyez remplis du Saint-Esprit, vous recevrez une puissance de Saint-Esprit survenant sur vous et vous serez mes témoins. En Judée, en Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. Être témoin de quoi? De Dieu. Rendre témoignage de Dieu, c'est-à-dire rendre témoignage de qui est Dieu. Montrer qui est Dieu. Montrer dans votre chair qui est Dieu. Dieu est bon. Amen. Alors j'ose dire, soyez remplis du Saint-Esprit et vous serez bons jusqu'aux extrémités de la terre. Quelqu'un qui danse bien, on dit, il est bon. Enfin, bon. C'est-à-dire, ce qu'il fait, c'est bien, c'est bon. Ça n'a rien de doucereux, de dégoulinant. C'est fort. Et puis celui qui est fort, il n'exploite rien, il n'exploite personne, il est serviteur. Parce qu'il a besoin de. Il n'a pas besoin d'exploiter les choses et les gens. La force, elle est en vous, c'est la vraie, c'est la divine, c'est la puissance du Saint-Esprit en vous. De quoi auriez-vous besoin de plus? veut dire d'argent. D'argent. De quoi auriez-vous besoin de plus si vous êtes rempli du Saint-Esprit? Cette force, le Saint-Esprit, est la force attractive la plus puissante du monde. Elle attirera à vous ce qu'il vous faut et vous ne manquerez de rien. Elle attirera à vous ceux qui doivent marcher avec vous. Elle vous attirera vers ceux avec qui vous devez marcher. Oui ou non? C'est ça que ça veut dire, vous ne manquerez de rien. Vous ne manquerez de rien, pourquoi? Parce que vous êtes rempli de cette force attractive. Mais vous attirerez aussi des choses négatives. Quand on jette un filet, on ramasse pas que des gros poissons. On ramasse des godasses, des ressorts de matelas, toutes sortes de trucs. La Bible dit, ils ont fait une pêche, et ensuite ils ont trié. Ils ont gardé quoi? Les gros poissons. C'est écrit. Désolé pour ceux qui aiment que ce qui est minable. Oh non, c'est trop cher. Ah non. Il faut que vous attiriez suffisamment de négatifs pour que vous puissiez vous exercer à gagner contre la médiocrité des envoyés du diable. Pauvre diable. Vous savez, dans la muscule, moi je pensais que c'était quand on levait le poids qu'on développait le muscle. Et j'ai appris. J'ai appris avec le temps que c'est aussi dans le moment de la descente, c'est-à-dire il y a la contraction et puis ensuite vous rebaissez, vous levez votre bras, vous rebaissez votre bras. Il ne faut pas le laisser tomber, il faut la résistance. Il y a le mouvement positif, vous levez le poids, ensuite il y a le mouvement négatif, vous le baissez et en baissant vous résistez. C'est une force. Et les choses négatives vous arrivent afin de développer aussi votre force. Vous pouvez y mettre tout votre cœur dans votre combat, dans votre histoire, dans votre vie, dans votre don, dans tout ce que vous voulez faire. Parce que vous savez que vous ne manquerez de rien. Vous le savez. Vous êtes fort. Et si vous, la grosse brebis, il vous arrive de vous égarer, eh bien, vous aurez l'honneur d'avoir la visite privée de Jésus qui viendra se déplacer jusque là où vous êtes, vous. Il laissera les autres bêlés et il viendra vous chercher, vous, parce qu'il vous aime. Alors, faites pas exprès de vous perdre pour avoir la visite personnelle de Jésus. Ce n'est pas ça que je suis en train de vous dire. Mais même au risque, au cas où. Parce que Jésus, il est comme vous, c'est un fort, si fort, qu'il partageait, il abandonnait sa gloire, il s'est offert. Et même, il a fait cadeau de sa vie. Pourquoi il a fait cadeau de sa vie? On ne peut donner que ce qu'on a. Il savait qu'il était vivant. La vie, ça ne meurt pas. Il dit, je donne ma vie pour la reprendre. Il l'a dit ou il ne l'a pas dit? On ne donne que ce qu'on a, frères et sœurs. Vous ne donnez pas parce que vous n'avez pas. Il dit, mais c'est vrai, je n'ai pas. Un acte de foi, c'est de marcher là où on ne peut pas normalement marcher. Là où l'intelligence dit non. Sur l'eau, on ne peut pas. Sur le feu non plus, on ne peut pas. Si tu donnes ce que tu as, tu sais que tu ne le perds pas, mais que tu le retrouveras multiplié. Tu vas me dire, oui, mais si je donne ce que j'ai, mais je ne peux pas donner ce que je n'ai pas. Si. Tu as toujours quelque chose à donner. Toujours. Le truc, c'est que tu donnes toujours, c'est un peu minable. Tu ne donnes pas ton nécessaire. C'est ça le problème. C'est ça le problème. Et c'est pourquoi tu n'es pas fort. Si tu es fort, tu as la foi, parce que tu es rempli de la puissance divine qui est illimitée. Pas seulement dans le domaine du flap, flap, flap spirituel, mais dans le domaine du matériel. Maintenant, ce n'est que lorsque vous pouvez donner quelque chose joyeusement, que vous savez que vous êtes possesseur de la chose. Jésus dit, je suis la vie. Il ne dit pas, j'ai la vie. Il dit, je suis la vie. Et c'est pourquoi il n'avait pas peur de la donner, celle qui était enfermée dans son corps. Il est la vie, il n'est pas seulement, c'est pas seulement sa petite vie à l'intérieur de lui, là dans sa viande. Il est la vie de tout. Il faisait la preuve qu'il était le vivant, la vie. Donner sa vie, on ne la donne pas si on a peur de la perdre. Si on a peur d'être roulé, si on a peur d'être trompé, tout ça c'est de la faiblesse. Vous voyez, beaucoup de bonté provient de la faiblesse. Mais c'est une bonté apparente, stérile. C'est celle qu'on trouve dans beaucoup de milieux religieux. Ces gens que vous voyez dégoulinant de sirupeuse bonté. Et si vous osez leur montrer une particularité, si vous osez leur montrer quelque chose qui ne rentre pas dans leur cadre, quelque chose que vous croyez ou que vous pratiquez, n'est-ce pas, qui n'entre pas dans leur dogme, par exemple, ou qui les choque, eh bien, ils vont allumer les bûchers. Non, pas plus aujourd'hui. Enfin, dans certains pays, dans certaines religions encore, oui. Enfin, du moins en France, non. Mais ils vous aiment plus. Ils vous saluent plus. Ils vous règlent de leur vie. Et puis, ils cancanent. Frères et sœurs, la bonté des faibles, c'est de la fausse monnaie. C'est de la fausse monnaie. C'est pourquoi la Bible dit « Soyez remplis du Saint-Esprit ». Faites attention, quel esprit vous remplit. Ce n'est pas un conseil, c'est un ordre. Soyez remplis du Saint-Esprit. Ça veut dire soyez puissant, ça veut dire soyez fort, c'est un ordre. Ça veut dire soyez bon, mais de la vraie bonté, pas de celle qui provient de la faiblesse, de la peur. Quand un arbre fleurit, il le fait que lorsqu'il est débordant d'énergie. Les fleurs, c'est un luxe. Je dis toujours, on reconnaît l'arbre à son fruit. Mais il y a les fleurs. Les fleurs, c'est un luxe. Je préfère les fruits comme ça. Non, il y a la fleur. C'est un luxe. Un arbre ne fleurit que quand il en a les moyens. Si on ne lui donne pas de l'eau en quantité raisonnable, il n'y a pas Kenya. Il n'y a pas de fleurs. Si on ne lui donne pas d'engrais en quantité convenable, il n'y a pas de fleurs. Si le sol n'est pas riche, l'arbre, il aura peut-être des feuilles pendant quelques temps, mais il ne donnera pas de fleurs. Alors je pose la question, est-ce que vous n'avez pas assez d'eau? Est-ce que je vous donne pas assez de l'eau de la parole de Dieu? L'eau qui coule depuis ici, qui sort de là, du ministère, c'est pas suffisant? C'est peut-être ma faute, peut-être, hein? Je suis assez fort pour le reconnaître. Peut-être, est-ce que c'est l'engrais qui vous manque? Hein, les choses pas agréables, celles qu'on doit mettre pour que... Dans le fumier, dans le caca, il se trouve mystérieusement de la force. Bizarre, hein. Rappelez cette histoire, Jésus dit, oh là là, cet arbre il donne rien, il faut le couper. Le jardinier dit, non, attends, je vais encore faire un trou autour, puis je vais mettre du fumier. Il n'a pas dit, je vais mettre des pétales de rose, je vais mettre du fumier, il y a un truc qui pue. Et le pasteur, c'est son boulot, c'est de creuser autour de vous, puis de mettre quelque chose qui pue. Oh, tu m'aimes pas! Tu m'as mis quelque chose qui pue! Ou peut-être alors, c'est votre sol qui n'est pas assez riche, il y a les trois possibilités. Hein. Peut-être une quatrième que j'ignore, je ne suis pas un jardinier ni un botaniste, mais en réfléchissant, il me semble que c'est ça, c'est l'eau, c'est l'engrais, c'est le sol, la qualité du sol. Bon. En tout cas, il y a un parallèle entre le monde matériel et le monde spirituel. Vous devez enrichir votre vie spirituelle en bénissant le sol où Dieu vous a planté. Le sol où vous a planté, c'est son église, et en particulier l'église locale, c'est-à-dire ici le sanctuaire. Le sol, c'est l'église de Jésus-Christ. Ce sol dans lequel vous avez été planté n'est-il pas assez riche? Michel, tu as fait une communauté pour les riches. Non, c'est pas ça, c'est pas ça. Faites-moi pas dire ce que j'ai pas dit. Est-ce que la faute vient à Jésus du fait que le sol n'est pas assez riche? Mais non, mes frères et sœurs, c'est pas la faute à Jésus. C'est vous qui enrichissez ou qui appauvrissez le sol? C'est vous qui enrichissez ou qui appauvrissez l'église? C'est comme ça. C'est moi qui ne fais pas ce que je dois. C'est moi qui ne vous donne pas la nourriture adéquate. Et qui fait que le sol est appauvri. C'est moi qui ne creusent pas assez autour de vos racines pour vous mettre du fumier, c'est ma faute. Qui pue, que vous aimez pas, Luc 13:8 pour ceux qui veulent la référence. Mais c'est nécessaire. Alors, des fois, j'aime pas mettre le fumier parce que bon, ben, ça pue. Moi aussi, j'ai les mains qui puent quand j'en mets. Et puis, en plus, après, vous me faites la tronche, alors c'est désagréable. Peut-être, voilà, peut-être, c'est ma faute. J'ai pas mis assez de fumier. Vous voulez du fumier? Ou alors, ce sont vos frères et sœurs, les méchants, qui appauvrissent le sol, ils bouffent tout et vous laissent rien du tout pour vous. Hein? Vous n'avez pas le temps de méditer comme les autres, parce qu'il y a ça à faire, il y a ça à faire, il y a ça à faire. Puis quand vous avez fini, vous êtes trop fatigué, vous ne pouvez pas méditer. Michel, il dit de méditer, mais vous ne pouvez pas méditer. Puis c'est toujours les mêmes qui font toujours les mêmes choses. Et puis moi, je n'ai pas le temps. Puis il y en a, c'est des privilégiés, ils ne foutent jamais rien. J'ai rien. Et j'ai la plus vilaine chambre. Personne ne m'aime. C'est de la faiblesse, mes frères et sœurs. C'est la faiblesse d'Adam qui accuse Dieu de lui avoir donné Ève. C'est la faiblesse d'Ève qui accuse Dieu d'avoir créé le serpent. C'est de la faiblesse. C'est de la faiblesse. La force doit être en vous. En vous. La force vous aide à reconnaître que l'erreur n'est pas à imputer aux autres, mais à vous-même. Bien sûr que les autres font des bêtises. Bien sûr que les autres bouffent sur votre dos. Bien sûr que ça peut arriver, bien sûr, bien sûr, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Mais si vous êtes rempli du Saint-Esprit, ça passe. Vous vous trouvez toujours fort. Un arbre, il n'a peut-être pas de fleurs, en tout cas il a des feuilles. Regardez, Jésus se promène, il voit un figuier, il s'approche, oh, il n'y a que des feuilles. Il n'y avait pas de fruits. Pourquoi? Parce qu'il n'y avait pas eu de fleurs. C'est comme ça, hein, je crois. En tout cas, ils pouvaient mettre des feuilles. Les feuilles, à quoi ça sert? Beaucoup de choses. Mais entre autres, les feuilles que vous produisez, un jour ou l'autre, elles tombent, et quand elles tombent, elles pourrissent, et ça fait l'humus. Ça fait une espèce de... On appelle ça l'humus. L'humus. Hein? Humus. Et puis, de plus en plus, ça pourrit, donc c'est ça, hein? Ça devient... Ça enrichit le sol. Rien ne se perd. Ça doit venir de vous, même vos feuilles, vos machins, là. Tout, il n'y a rien en vous qui n'a pas de valeur. Même ce qui tombe de vous, qui semble qu'il n'a pas de valeur. Oh, ça m'a échappé, voilà, boum, c'est par terre maintenant. C'était joli, mais maintenant ça ne marche plus. Eh bien, ça va pourrir et puis ça va donner de la richesse au sol. Est-ce que vous croyez ça? Moi, je crois ça, rien ne se perd. Et cet élément-là, ça va permettre que vous puissiez donner des fleurs. Le sol n'est pas responsable entièrement. C'est un tout. Je ne suis pas responsable entièrement. Tu n'es pas responsable entièrement. Mais ton frère et ta sœur non plus. Nous avons tous une responsabilité parce que nous formons un corps, nous formons un tout. Avec Jésus, Jésus est en nous, nous sommes en lui. Est-ce qu'il est responsable? Vous dire, oui, c'est lui le responsable. Bon, d'accord, il y a une hiérarchie. Il y a une hiérarchie. Hein? La hiérarchie divine. Le plus haut ne peut exister que s'il y a de l'énergie pour aller plus haut. Dieu ne serait pas Dieu si nous n'existions pas. Ça veut dire quoi? Mais il était Dieu avant nous. Mais Dieu signifie, il n'était pas, en fait il n'était pas Dieu, parce que Dieu ça signifie objet d'adoration, il n'y avait personne qui l'adorait, donc il n'était pas Dieu, il n'était pas Dieu, parce que être Dieu c'est être un objet d'adoration, tant que je n'existe pas, tant qu'il n'y a pas quelqu'un qui adore Dieu, il n'y a pas de Dieu, il est, voilà, c'est tout. Donc le plus haut même il a besoin de ce qui est en bas. Si vous ne vous nourrissez pas, c'est votre intelligence qui va disparaître la première. Vous allez devenir bête. C'est ce que la Bible dit. Les vierges folles, voilà. Vierges folles. On a visité beaucoup de pays pauvres. Hein? La pauvreté, c'est pas celle du corps, on l'a vu. Hein? La pauvreté, c'est celle de l'intelligence. Et ce n'est que lorsque les besoins physiques sont satisfaits que l'énergie passe plus haut. Il y a une hiérarchie. une hiérarchie. C'est pourquoi on ne peut pas dire aux gens, mais bon, venez dans mon école, je vais vous instruire, il faut d'abord leur donner à bouffer. Puis ensuite, une fois que vous les avez pourvus aux besoins de base, voilà, alors après vous pouvez leur donner des idées pour faire plus l'intelligence. L'énergie, elle circule d'abord pour répondre aux besoins. Dieu, il répond aux besoins. Et puis après, aux désirs. Et avant de donner les fleurs, il y a d'autres choses, hein. Il faut d'abord protéger la base, la racine. La racine. S'il n'y a pas de racine, il ne peut pas y avoir de fleurs. Et dans la hiérarchie, la compassion, c'est au-dessus de l'intelligence. Il faut d'abord être intelligent avant d'être compatissant. Si vous êtes compatissant sans intelligence, vous allez vous ruiner. Et la méditation, c'est encore plus haut que la compassion. Parce que si vous êtes compatissant, si vous êtes intelligent, que vous êtes compatissant, mais que vous ne méditez pas, c'est là que vous êtes la grosse brebis qui allait se mettre dans les fous, dans les ronces. La grosse brebis. Voyez, frères et sœurs, comment tout ça fonctionne. Ça n'est pas, c'est pas de l'anarchie. Nous sommes des disciples et Jésus nous explique comment ça fonctionne. Alors il dit, je vais vous dire un verset qui n'existe pas. Soyez la plus grosse. Bonjour les grosses. Soyez la plus grosse qui risque parfois de se perdre. C'est-à-dire, soyez remplis du Saint-Esprit de puissance. L'apôtre Pierre était rempli du Saint-Esprit de puissance et il s'est copieusement gueulé avec je ne sais plus qui, comment il s'appelait l'autre. Ou Paul aussi. Voilà. Et alors, est-ce que Jésus lui a dit, ouais, ben alors, si j'aurais su, j'aurais pris un autre. Non, il a dit, bon, va paître mes brebis, c'est bon. Amen. La plus grosse brebis, celle qui a fait la grosse bêtise, qui a renié, tout ça. Bon, maintenant, va paître mes brebis. Voilà comment il fait Jésus. Voilà comment. Si Jésus fait comme ça avec moi, c'est comme ça que je dois faire avec les autres. Mais pas avec ceux qui sont faibles et puis qui rouspètent et puis qui se plaignent et puis qui murmurent. Si vous faites comme ça, ben je fais comme Jésus fait avec ceux qui se plaignent, qui rouspètent et tout. Dehors du jardin. Va voir un peu ailleurs si j'y suis. On va toujours revenir après, mais pour le moment, va voir un peu dehors si j'y suis. Hmm? Soyez la grosse brebis qui risque parfois de se perdre. Les 99 autres brebis, elles resteront bien au chaud, elles baveront en parlant de vous. Mais vous, au moins, vous aurez vécu quelque chose. Vous aurez vécu quelque chose de super. Moi, c'est ça que je trouve, c'est ça que j'aime. Quand je me suis converti, j'ai changé de maître, j'ai passé des ténèbres à la lumière, je suis venu à Jésus, c'était formidable, j'ai vécu quelque chose. Troisième jour, je priais pour mon premier paralytique qui a été guéri. Après, il fallait que je passe à autre chose. Je ne pouvais pas rester là. Il fallait autre chose, il fallait plus. Mais c'est quoi plus? Alors j'ai dit, je vais apprendre. J'allais à l'école biblique. Je me suis aperçu que ce n'était pas ça. Je dis, ben je vais prêcher. Je me suis aperçu que ce n'était pas ça. J'ai voulu faire, j'ai créé une église. Je me suis aperçu que ce n'était pas ça. Mais j'ai fait, je me suis fourvoyé, je me suis trompé. Après, j'ai vu le message de l'abondance, j'ai trouvé génial, je me suis lancé là-dedans. Et puis, puis j'ai vu tous les excès, j'ai vu tout ça. J'ai dit non, c'est pas ça, c'est pas bon, c'est pas juste. C'est pas que c'est faux, mais il y a quelque chose qui n'est pas clair là-dedans. Et puis après, ben, Jésus est venu me chercher. Puis il m'a dit voilà, maintenant je vais te montrer. Puis il m'a montré. Voilà la vie communautaire, voilà l'établissement de toutes ces choses. Et puis une fois que tout ça a été établi, il m'a dit, bon, maintenant tu reprends ton baluchon. Et puis tu vas... Il ne m'a pas dit, mais ça s'est passé comme ça. Amen. Et puis tu vas de nouveau partir, évangéliser et tout. Et les frères et sœurs viennent. Et puis on a des miracles. Et puis on a des conversions. Et puis on crée des églises. Et puis on fait de l'humanitaire. Et puis on a une importance. On est satisfait. On est content. On est des grosses brebis qui se musclent de plus en plus. Hein? Et puis on va encore faire des bêtises. Vous ne croyez pas qu'on va encore en faire? Bien sûr qu'on va encore en faire. Ce qui va permettre à Jésus de nous rendre une visite privée. Pour venir nous reprendre. Ou il va nous envoyer un jardinier pour faire un trou, pour mettre du fumier. Il l'a fait. Rappelez-vous ce pasteur canadien qui était venu mettre du fumier. Rappelez-vous, on a souvent Osborne qui vient, il ne se rend pas compte, mais il nous met un peu d'engrais, là, il nous booste un peu. Hein? Même Marc, des fois, il vient avec ses gros sabots, il nous met du fumier, c'est Jésus qui nous l'envoie, là. Quand il vient, il a ton château fendu. J'aime pas ça, mais c'est vrai qu'il est fendu. Hein? Et bien, moi, ça me booste, ça m'aide, c'est formidable, c'est Jésus qui vient me rendre visite pour me dire ton château. Bon, mais maintenant, il faudrait voir un petit peu, hein? Il est fendu. Vous voyez ce que je veux dire, frères et sœurs ? Ne pas être auto-satisfait, mais dire, voilà, j'ai peur de rien, Jésus est avec moi, je ne suis pas un faiblard, bon, j'ai des moments de faiblesse, que j'ai des moments de faiblesse, Jésus vient me relever. C'est vrai ou c'est pas vrai ? C'est vrai. Alors n'ayez pas peur, n'ayez pas peur, aucun de vous n'est faible. N'ayez pas peur, ne croyez pas le diable quand il vous dit que vous êtes faible, c'est pas vrai. La Bible dit, dites un mensonge. Ah bon ? Oui, la Bible dit, dites un mensonge. Que celui qui est faible dise, voilà, alors dites un mensonge béni, que celui qui se sent faible dise, je suis fort, voilà. Faites la grosse brebis, même si vous êtes tout maigre. Prenez confiance en Dieu, en vous-même, dans vos frères et sœurs. L'eau que je vous donne, elle est bonne, buvez-la. Les feuilles qui pourrissent autour de vous, c'est les vôtres, c'est votre produit, mangez-le, nourrissez-vous-en. Partagez avec vos frères et sœurs. Mettez vos compétences ensemble les uns avec les autres et allons de l'avant, faisons la volonté de Dieu. Soyez remplis du Saint-Esprit. Amen. Que Dieu vous bénisse. Merci Seigneur. On se lève et on prie. Merci Jésus. Nous te louons ce matin parce que tu nous as parlé, parce que tu nous as dit quelque chose d'important. Tu nous as dit que la bonté ne provient pas de la faiblesse, que tu n'aimes pas cette sorte de bonté-là, mais que tu aimes une bonté qui vient du ciel, qui vient de ton cœur, qui vient de ta force, qui vient de ta puissance. Et Seigneur, ce matin, je te remercie parce que je suis là et tu es là et je te demande de me remplir de cette puissance du Saint-Esprit. Je te demande de remplir mes frères et sœurs de la puissance du Saint-Esprit pour que la vraie bonté coule du milieu de nous sur tous ceux que nous rencontrons. Que la puissance de la bonté soit au milieu de nous pour se répandre dans le monde selon ce que tu nous as dit par les prophètes. Je te demande au nom de Jésus, ne nous visite pas seulement par le Saint-Esprit, mais remplis-nous, immerge-nous dedans, afin que de cette puissance, de cette force, puissent sortir des fleurs et des fruits et des choses qui enrichissent le monde autour de nous. Que ton nom soit glorifié au travers de nous, que des multitudes puissent savoir que c'est vrai, que c'est une réalité, que ce que nous vivons est une puissance qui vient de Dieu, que c'est une bonté qui n'est pas une fausse monnaie, mais qui est une réalité trébuchante, sonnante, réelle, palpable, visible, donc on peut constater qui est cohérente. Père, je te le demande dans le nom de Jésus, que ton témoignage ici puisse se répandre jusqu'aux extrémités de la terre, comme tu l'as dit. Soyez remplis du Saint-Esprit et vous serez mes témoins jusqu'aux extrémités de la terre. Père, nous voici pour te servir. Amen. Nous voici pour te servir. Ton joug n'est pas difficile. C'est une joie d'obéir. À tes ordres, rends-nous dociles, sous l'étendard de la croix, au nom de l'Éternel, nous sommes les messagers du ciel. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Gloire à Dieu, louons le Seigneur, louons le Seigneur. Que les musiciens s'approchent, louons le Seigneur. Acclamons le Seigneur Jésus, notre Dieu est tout puissant. Alléluia, merci Seigneur Dieu. Louons le Seigneur en chantant le numéro 21. Notre cœur se tourne vers Dieu. Se détourne de la faiblesse, se tourne vers Dieu. Il faudra faire un chant là-dessus. La vraie bonté provient de la force. Mon cœur se tourne vers le ciel. Mon cœur se tourne vers le ciel pour te louer Dieu éternel. Tu m'as comblé de tant de richesses, accompli pour moi tant de promesses. Tu m'as donné un nouveau cœur pour chanter mon nouveau bonheur. Gloire à mon Sauveur, gloire à mon Seigneur, je t'aime. Gloire à mon Sauveur, gloire à mon Seigneur, je t'aime tant.
toi mon âme se confie. Tu es le salut de ma vie. Tu m'as sauvé de tant de détresse. Tu t'es tenu près de moi sans cesse. Ton bras s'est tendu à chaque heure pour me protéger du malheur.
Amen, alléluia.
Gloire à mon sauveur, gloire à mon Seigneur. Je t'aime. Gloire à mon sauveur, gloire à mon Seigneur. Je t'aime tant. Sur le chemin de la victoire, je marche en célébrant ta gloire. Ton amour,
la montée de ta force.
Gloire à mon sauveur, gloire à mon Seigneur. Je t'aime. Gloire à mon sauveur, gloire à mon Seigneur. Je t'aime tant. Gloire à mon sauveur, gloire à mon Seigneur. Je t'aime. Gloire à mon sauveur, gloire à mon Seigneur, je t'aime tant.
Louons le Seigneur, alléluia, merci Jésus, alléluia.
Amen.
Alléluia. Alléluia.